Classique 21, la chronique économique. Avec Amit Faljaoui.
On entend beaucoup ces dernières semaines et ces derniers mois un discours qui monte, un discours plutôt pro-russe, parfois repris d'ailleurs sans distance aux États-Unis, et selon lequel Moscou serait en train de gagner la guerre et l'Europe serait, elle, à bout de force. Mais si l'on sort du bruit et qu'on regarde les faits, calmement, eh bien ce récit se fissure. À Davos, Alexander Stubb, le premier ministre finlandais, a livré une analyse très froide, presque chirurgicale, et qui éclaire bien la situation. Et pour comprendre ce qui se joue vraiment, eh bien il faut distinguer trois niveaux. Les objectifs politiques, la réalité militaire, et puis surtout, la logique économique. Alors revenons d'abord au point de départ. Vladimir Poutine, souvenez-vous, avait trois objectifs clairs en lançant cette guerre. Le premier, annexer l'Ukraine. Résultat, c'est un échec. L'Ukraine n'a jamais été aussi arrimée à l'Occident et avance désormais à pas forcer vers l'adhésion auprès de l'Union européenne. Deuxième objectif, bloquer l'élargissement de l'OTAN. Là encore, c'est l'inverse qui s'est produit. La Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN. Concrètement, la frontière directe entre la Russie et l'OTAN a doublé de taille depuis la guerre en Ukraine. Troisième objectif, démilitariser l'Europe. Eh bien, on assiste aujourd'hui exactement à l'effet inverse. Le continent se réarme à une vitesse inédite depuis des décennies, avec des budgets de défense qui atteignent parfois près de 4% du PIB dans les pays, en tout cas les plus exposés, et qui dépassent en tout cas partout les niveaux d'avant-guerre. Alors sur le terrain militaire maintenant, contrairement à l'image d'une avancée russe qui serait irrésistible, la réalité est beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus simple. En 2 ans, les gains territoriaux russes représentent moins d'1% du territoire ukrainien. C'est donc une guerre d'attrition, plutôt lente et extrêmement coûteuse. Et selon des estimations ukrainiennes et de l'OTAN évoquées donc à nouveau à Davos, la Russie aurait perdu plus de 30 000 soldats pour le seul mois de décembre dernier. Alors pour quel résultat ? Pour une prise revendiquée et parfois de manière très discutable de petites localités, petites villes secondaires. Et c'est là que l'économie devient la clé de lecture essentielle. Pourquoi donc continuer une guerre aussi chère pour des gains aussi faibles? Mais parce que selon le premier ministre finlandais, toujours à Davos, Moscou n'a plus vraiment le choix. L'économie russe est désormais structurée autour de la guerre. L'inflation est très élevée, à 2 chiffres. Productivité en berne, dépendance massive à la dépense militaire et un État russe qui irrigue en priorité tous les secteurs liés au conflit. En clair, l'économie russe tient uniquement parce que la guerre continue. Et donc, arrêter le conflit pour la Russie, ce serait devoir absorber le retour de centaines de milliers de soldats que l'État russe ne pourrait plus ni payer, ni contrôler, ni reclasser. Ce serait aussi affronter une croissance quasi nulle hors du complexe militaro-industriel. Et donc, la guerre est devenue too big to fail, pour reprendre une expression financière, c'est-à-dire en fait beaucoup trop grosse pour s'arrêter sans risque d'implosion. Et donc, si ce raisonnement est juste, nous ne sommes plus face à une stratégie de victoire, mais plutôt à une fuite en avant pour la survie politique du Kremlin. Conclusion, en tout cas provisoire, l'Europe n'est pas aussi faible qu'elle le croit ou qu'on nous le répète. Face à une puissance qui joue sa survie interne, notre principal atout reste la durée, la cohésion et évidemment le soutien à l'Ukraine. Et donc la vraie question du jour est peut-être celle-ci. En Europe, est-ce qu'on ne surestime pas la Russie par pessimisme, au point d'ailleurs d'affaiblir nous-mêmes notre propre position stratégique? En tout cas, le débat mérite d'être posé.
Réécoutez la chronique économique sur Ovio.